Théologie biblique, Père Philippe, 25 novembre 1983 à Saint-Joseph.
Continuons cette histoire d'Abraham. Abraham, donc chapitre 20, hein, je reprends. Abraham partit de là pour le pays de Néguev, et il habita entre Kadesh et Kour. Puis il résida à Guéra. Comme Abraham disait à Sarah, sa femme, « C'est ma sœur », Abimélec, roi de Guérar, envoya prendre Sarah. Mais Dieu vint vers Abimélec dans un songe, la nuit. Il lui dit, « Voici que tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle est mariée. » Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, dit, « Mon Seigneur, est-ce que tu vas tuer même des gens qui sont justes ?» Le Seigneur regarde les intentions et pas les réalisations, il faudra le lire. Et une fois de plus, nous le voyons ici. « Celui-là ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur ?» Et elle, elle-même a dit, « C'est mon frère. » C'est d'un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai fait cela. Dieu lui dit dans un songe, moi aussi, je sais que c'est d'un cœur intègre que tu as fait cela. Et c'est moi aussi qui t'ai retenu de pécher contre moi. Voilà pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Mais là, c'est une ignorance hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure au propos du péché. Vous voyez bien, Abimélec est dans l'ignorance. Et donc il peut avoir un cœur juste, parce qu'elle est dans l'ignorance. Mais le Seigneur ne veut pas, le Seigneur ne veut pas qu'il y ait cet acte qui, objectivement, serait mauvais. Et maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras sûrement, toi et tous les tiens. Abimélec se leva de grand matin, appela tous ses serviteurs et leur communiqua toute cette affaire. Les hommes eurent grand peur. Abimélec appela Abraham et lui dit, « Que nous as-tu fait ? En quoi ai-je péché contre toi, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as fait à mon égard des choses qui ne se font pas. » Abimélec dit encore à Abraham, « Qu'avais-tu en vue pour faire cette chose-là ? » Abraham dit, « Je m'étais dit sûrement, il n'y a aucune crainte de Dieu en ce lieu, et on me tuera à cause de ma femme. Et puis, elle est vraiment ma sœur, la fille de mon père. » Il est rusé, hein? C'est sûr. Il va jusqu'au bout garder la... Elle est vraiment ma sœur, la fille de mon père, mais non, la fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lors donc que Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père, je lui ai dit, « Voici la faveur que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Abimélec prit du petit et du gros bétail, des esclaves, hommes et femmes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah et sa femme. Et ça se termine très bien. Extraordinaire. Comment Dieu arrive, n'est-ce pas ? C'est merveilleusement, malgré cette faute. C'est très curieux. Vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que la première fois. La première fois, c'est très simple. C'est l'Égypte, c'est très simple. Ici, c'est extrêmement complexe avec Abimélec. Et puis, il y a cette excuse. Hein, cette excuse d'Abraham. l'ordon que mon Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père. C'est très curieux. La vocation d'Abraham, c'est une errance, hein, telle qu'elle est montrée ici. L'ordon que Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père. Sorte Dieu qu'il fait quitter pour aller vers la terre de Canaan. C'est pas errer, c'est devenir le pèlerin de Dieu. Mais aux yeux des autres, c'est errer. C'est très curieux. L'ordon que Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père, je lui ai dit, voici la faveur que tu me feras. Dans tous les lieux où nous arriverons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit le petit et le gros bétail des esclaves, hommes et femmes, et les donna à Abraham. Il lui rendit Sarah et sa femme. Abimelech dit, voici que mon pays est devant toi, habite où bon te semblera. Et à Sarah, il dit, voici que je donne 1000 cycles d'argent à ton frère, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et tu seras entièrement justifié. Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, qui purent enfanter. Car Yahvé avait rendu tout saint stérile dans la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. C'est extraordinaire cette histoire. Hein? Cette histoire, elle a quelque chose de. La fécondité, hein? Faut pas l'oublier. Ceux qui s'intéressent à la fécondité dans la Bible, c'est un lieu qui est extrêmement intéressant. N'est-ce pas? Puisqu'au fond, c'est que la faute contre l'alliance voulue par Dieu, va supprimer la fécondité. Ça va très loin, vous savez ça. Ça devrait nous éclairer pour pas mal de choses. Que la fécondité est un don de Dieu. Dieu peut le retirer quand il veut. Et si on se moque de trop de l'alliance fondamentale avec Dieu, la conséquence, ce sera la stérilité. Un aspect qui est très important pour nous à comprendre cela, puisque la grande lutte, hein, à laquelle nous assistons, c'est la lutte de l'efficacité contre la fécondité. Le démon plaide l'efficacité contre la fécondité, parce que la fécondité est une bénédiction de Dieu, elle dépend de Dieu et elle vient de Dieu. L'homme n'a pas de droit sur la fécondité, elle vient de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Dès le point de départ, c'est une bénédiction de Dieu. Donc c'est une surabondance. Et l'homme ne peut pas la canaliser, il ne peut pas la dominer. C'est Dieu qui la donne. Chaque fois, c'est Dieu qui la donne. C'est un don de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu chaque fois. Alors, si l'homme se conduit, vous voyez, si l'homme va contre une volonté de Dieu, il peut y avoir cet arrêt. Alors, il y a là, ce serait intéressant d'étudier au point de vue théologique, hein, ce passage. La dernière fois, j'avais vu les petits problèmes exégétiques qui se proposent, qui sont des problèmes insolubles. Il faut bien se dire ça, c'est insoluble. Y a-t-il vraiment deux sources ou pas deux sources? Il y a deux traditions. C'est sûr, l'histoire d'Abraham, il y a deux traditions et on peut facilement les saisir. Mais l'Esprit Saint a voulu les rassembler. Voilà ce qu'il faut se dire. Comme l'Esprit Saint a voulu rassembler les deux traditions sur la création. Il les a rassemblées. Donc nous devons les prendre unies entre elles. Et si nous devons les prendre unies entre elles, c'est parce que nous avons besoin de ces deux traditions. Et que ces deux traditions veulent dire quelque chose. Alors, est-ce qu'on retrouverait, ça c'est une question qu'il faudrait creuser un peu, est-ce qu'on retrouverait ce que j'avais dit au point de départ, vous voyez, des deux traditions sur la création? La tradition qui provient, qu'on dit, éloïste, et la tradition Elohim. Les deux traditions. Yaviste, veut dire. La tradition yaviste qui est sacerdotale. Et la tradition Elohim qui est la tradition plus commune. Alors, les deux récits de la Genèse, les deux récits de la création. L'un qui nous montre que la création est faite par la parole, L'autre qui montre que la création est faite par le geste. Alors, est-ce qu'on retrouverait, posez la question, et essayez vous-même de la résoudre, est-ce qu'on retrouverait dans ces deux traditions, l'une plus le geste, l'autre plus la parole? Ça nous intéresse parce que c'est intéressant d'y trouver, à travers toute la révélation, le point de vue de la parole, le point de vue du geste. Et on n'a jamais fait ça. Sans doute que ça n'apporte pas grand-chose, c'est possible. Ça pourrait apporter une lumière, c'est très possible. Parce qu'on n'étudie pas habituellement, vous voyez, les exégètes d'aujourd'hui étudient plutôt ces deux traditions pour les mettre en parallèle et montrer leur diversité. Mais ils n'étudient pas du tout la finalité de ces deux traditions. Pourquoi y a-t-il deux traditions ? Si l'Esprit Saint a pris ces deux traditions, c'est parce que ces deux traditions ne sont pas des répétitions. L'Esprit Saint n'aime pas les répétitions. Vous le savez bien, il n'aime pas ça, les répétitions. Les répétitions, c'est l'homme. Et c'est propre à l'homme, les répétitions. Mais le Saint-Esprit, lui, reprend tout le temps et veut toujours aller plus loin. Or, si de fait le Saint-Esprit a voulu que ces deux traditions, la tradition yaviste et la tradition éloïsme, ces deux traditions soient maintenues dans la Genèse. Il y a une raison. Il y a une finalité. C'est pour que nous comprenions mieux certains faits, que nous ne comprendrions pas par un unique regard, et que nous les comprenions mieux par ce double regard, par cette double tradition. Bon, quand il s'agit de la création, c'est très net. Parce qu'une tradition montre l'efficacité de la parole de Dieu, l'autre tradition montre l'efficacité du geste. C'est très facile. C'est plus difficile après. Mais ce serait intéressant d'essayer de comprendre si, au fond, il y a toujours le même parallélisme entre ces deux traditions. La tradition qui montre davantage le geste montre davantage l'aspect affectif, et la tradition de la parole montre davantage la sagesse. Ça, ce serait très intéressant. Et je ne crois pas que ça ait été fait au point de vue théologique. Parce que ceci, ça gâte tout de suite un aspect de théologie biblique. Et non pas uniquement d'exégèse. Parce qu'on fait intervenir la finalité. Et on fait intervenir la finalité du côté de la parole et la finalité du côté du geste. Alors, quand vous relisez, parce qu'il faut le relire, hein, la Genèse, c'est une chose qu'on doit lire et relire. Et bien, quand vous relisez la Genèse, faites vous-même. C'est facile à faire. La genèse d'une tradition et la genèse de l'autre tradition. Essayez de comprendre si l'une exprime davantage la sagesse de Dieu, l'autre davantage l'amour. Lumière et amour. C'est intéressant à voir ça, parce que c'est la pédagogie de Dieu. Et la pédagogie de Dieu se fait de deux manières. Il y a une pédagogie d'instruction. Il y a une pédagogie d'éducation. Le noviciat implique une éducation et le noviciat implique une illumination. N'est-ce pas ? On est illuminé parce que notre intelligence doit être nourrie et illuminée et notre cœur doit être nourri. Et donc il y a toujours éducation et instruction. Toujours. Eh bien, je crois que lorsqu'il s'agit de l'écriture, on retrouve toujours la foi, l'instruction, Dieu nous enseigne. Le Père nous enseigne. Et on retrouve une éducation. Alors, de l'ordre de l'éducation, le geste joue un rôle principal. Le Père Maître enseigne plus par sa présence que par sa parole. Comme Père Maître. Oui, parce que c'est une éducation, avant tout. Lorsqu'il s'agit de l'enseignement, c'est le point de vue de la parole qui doit illuminer. C'est très intéressant de voir ces choses-là et d'essayer de comprendre à travers la Genèse, qui est le livre fondamental et premier de l'Écriture, on doit trouver éducation et l'instruction de Dieu. Dieu qui nous illumine et Dieu qui nous éduque. L'Esprit Saint étant, selon l'expression de saint Thomas, qu'il faut beaucoup aimer, rector et directeur. L'Esprit Saint est rector en sens qu'il illumine notre intelligence Et l'Esprit Saint est directeur en tant qu'il dirige notre cœur. Donc l'Esprit Saint à la fois nous éduque et l'Esprit Saint nous illumine. Il fait les deux. Et l'Esprit Saint à ce moment-là, vous voyez, tient les deux. Il demande une éducation dans l'ordre de l'amour et une instruction dans l'ordre de l'amour. Alors serait curieux, vous voyez, si vous mettez en parallèle, ce serait intéressant à faire, ce chapitre 20 avec le premier événement. Tout à fait au début de la vie d'Abraham, ce que nous avions vu la fois dernière. Hein. Abraham, lorsqu'il va en Égypte. Donc au chapitre 12, à partir du verset 10. Vous voyez qu'il est beaucoup plus sobre le chapitre 12, et le chapitre 20 est beaucoup plus explicite. Et alors, une fois, on excuse Abraham d'un côté, de l'autre côté, on n'excuse pas du tout. Ce qui montre que de fait, il y a quelque chose de plus complexe là. Je n'insiste pas. Chapitre 21, Yahvé visita Sarah. Alors, si vous avez des questions, vous les noterez, puis on essaiera d'y répondre. Yahvé visita Sarah. Yahvé visita Sarah selon ce qu'il avait dit. Yahvé fit pour Sarah selon ce qu'il avait annoncé. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Vous voyez, c'est très beau, le mystère de la fécondité, c'est la visite de Yahvé. Yahvé visita Sarah. Il la rend féconde selon ce qu'il avait dit. Yahvé fit pour Sarah selon ce qu'il avait annoncé. Sarah conçut et enfanta un fils. Il y a comme une mission, c'est très mystérieux. Il y a comme une mission de Dieu, selon le langage des théologiens, pour le mystère de la fécondité. Une mission dans l'ordre naturel. Alors, ce n'est pas une mission au sens absolu, mais c'est une visite. C'est beau ça. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque qu'avait annoncé Dieu. Oui, on insiste pour montrer que c'est vraiment la réalisation de la prophétie. Abraham appela du nom d'Isaac, l'enfant du rire, le fils qui lui avait été enfanté, que lui avait enfanté Sarah. Abraham circoncit Isaac, son fils, à l'âge de 8 jours, selon ce que lui avait commandé Dieu. C'est le premier, vous voyez, qui est vraiment circoncis, c'est le premier circoncis au bout de 8 jours, la date voulue par Dieu. Abraham était âgé de 100 ans quand lui fut enfanté Isaac. C'est l'enfant de la vieillesse. L'enfant du rire, donc du printemps. Son fils, donc Isaac, son fils, Sarah dit, « Dieu m'a donné de quoi rire. Quiconque l'apprendra, rira à son sujet. » Vous voyez, cet avant du rire. Hein? C'est l'avant du rire, c'est le premier avant, celui-là. C'est l'avant de Sarah. Et c'est l'avant du rire, c'est étonnant. Elle dit aussi, qui aura annoncé à Abraham? Qui aurait annoncé à Abraham? Sarah allaitera des fils, car j'ai enfanté un fils à sa vieillesse. Alors, voyez, comprenons bien tout ça, dans le langage des pères de l'Église, dans le langage de l'Écriture, Marie donne un fils à l'humanité dans sa vieillesse. Faut pas l'oublier, ça. Parce que ça, c'est le langage qui prépare et qui annonce. C'est dans la vieillesse de l'humanité que Jésus arrive. Si nous avons un regard biblique, le regard biblique fait que Jésus arrive à la fin des temps. Donc c'est dans la vieillesse de l'humanité, c'est quand l'humanité n'en peut plus. Et Marie donne un fils à l'humanité dans sa vieillesse, comme Sarah donne un fils à Abraham dans sa vieillesse. Lorsque normalement, Abraham ne devrait plus avoir d'enfant. Lorsque normalement, l'humanité devrait retomber dans la stérilité. Il y a ce rajeunissement, cet avant. Ce printemps de l'humanité. C'est le printemps de l'humanité, vous voyez, l'avant. Sous ce point de vue-là, quand on le regarde sous cette lumière-là, il y a ce printemps de l'humanité qui est donné à cette vieille humanité qui n'en peut plus. Cette humanité pécheresse, n'est-ce pas ? On a l'âge de ses péchés, il ne faut pas l'oublier. On n'a pas l'âge de sa grâce, mais l'âge de ses péchés. On est vieux en fonction des péchés, ça c'est sûr. Et ça, c'est l'humanité, dans la mesure où elle a péché, elle a cette vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où on sevra Isaac. Mais les coutumes, c'est merveilleux de voir ça. Sarah vit le fils que l'égyptienne Agar avait enfanté Abraham, en train de jouer avec Isaac, ces deux enfants qui jouent dans l'innocence. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante. Elle a des crises de jalousie, hein, ça lui reprend. Ça lui reprend de temps en temps. C'est un caractère très particulier, Sainte Sarah. Hein. C'est la sainte qu'il faut prier contre les jalousies. Mais c'est très net, ça, c'est sûr. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils, avec Isaac. Toujours l'héritage. L'héritage est la cause de toutes les jalousies et de toutes les disputes à l'intérieur de la famille. C'est très très cool, ça. Et tout le temps comme ça. L'héritage. Alors, vous comprenez bien, s'il y en a deux qui héritent, ce sera deux fois moins grand. Et Sarah ne peut pas accepter ça. La chose déplut beaucoup Abraham à cause de son fils. C'est pas drôle pour Abraham. Hein? Chaque fois, il est meurtri. C'est son fils, Ismaël. Par la servante, mais c'est son fils quand même. Et voilà que Sarah ne peut pas supporter. Espèce de jalousie farouche, dit Isaac de Sarah. La chose déplut beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, n'aie pas de déplaisir pour le garçon et pour ta servante. En tout ce que tu diras, Sarah, écoute-la. Dieu a fait pour Sarah, c'est effrayant. On ne peut pas nier ça. C'est extraordinaire ça. Sarah, et Dieu dit à Abraham. Alors, est-ce que ça, c'est la politique de Dieu, hein? Faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Faut essayer de se saisir ce que ça veut dire, parce que ce que Sarah veut, Dieu veut. Hein? Et elle le veut, ça. Alors, Dieu dit à Abraham, non, pas la peine, tu n'arriveras pas à changer. C'est peut-être une très grande miséricorde, hein? Et c'est peut-être ce qu'il faut comprendre. C'est une très grande miséricorde de Dieu. Quand on ne peut pas changer le cœur de quelqu'un, elle avait mieux l'envelopper de miséricorde. Mais c'est tout le problème de la correction fraternelle, ça. Tout le problème de la correction fraternelle. Nous nous sommes entêtés pour corriger les gens, parce qu'on veut toujours un modèle. Et Dieu n'a pas l'air du tout d'avoir des mœurs comme ça. Dieu a l'air d'être tout à fait différent. Sarah est entêtée, elle est entêtée, Sarah, il n'y a pas moyen, on ne la changera pas. Elle est âgée, elle a une excuse. Hein. Elle est âgée et elle aime son petit chéri, tu vois, c'est son petit Isaac, elle l'aime prodigieusement. Elle l'enveloppe, elle l'envoûte, hein, c'est très net. On verra bien quand il s'agira du mariage d'Isaac. Impossible! Comment voulez-vous qu'il puisse se marier? Il a tellement été capté par sa mère. C'est impossible! Et Abraham a l'œil très clair, très lucide, il sait très bien que ça se passe comme ça. Il le sait, il le voit très bien. S'il est meurtri, Dieu est tout près d'Abraham pour lui donner un conseil. N'aie pas de déplaisir pour le garçon et pour la servante et pour ta servante. En tout ce que te dira Sarah, écoute-la. Car c'est par Isaac que tu auras une descendance de ton nom. Donc l'héritage, c'est Isaac. Et c'est pas une injustice. Oui, c'est ça, c'est la primauté, c'est ça le regard de Dieu. Le regard de Dieu sur Isaac et Ismaël. Ce regard de prévenance, d'amour, de jalousie de Dieu sur Isaac. Quant au fils de la servante, de lui aussi je ferai une grande nation, car il est ta descendance. Dieu respecte Abraham, hein, Dieu l'aime. Bien plus que Sarah. Sarah ne respecte pas beaucoup Abraham. Alors qu'elle a voulu à ça. Elle l'a voulu. Mais après, c'est trop lourd à porter. Il y a des moments d'héroïsme dans notre vie, comme ça, dont nous avons beaucoup de peine de porter les conséquences. Et on le voit très très bien, ça. Il y a un moment d'héroïsme. Elle a été héroïque, Sarah, à un moment donné. Et je crois que c'est pour ça que Dieu est un petit faible pour elle. Quand Dieu nous a demandé à un moment donné dans notre vie un acte héroïque, ce que disait toujours le Père de Haut, ça, à propos de la vie religieuse. Il disait, ils ont toujours respecté des vieux religieux ou des vieilles religieuses, malgré tout leur caractère terrible de vieux garçons, de vieilles filles. Il faut toujours respecter les vieux. Parce qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont fait un acte héroïque. C'est très beau, ça. Vous voyez ? Ah, c'est pas ça qu'il doit excuser, tu vois, alors, d'avoir toutes les jalousies possibles. Non, mais c'est très juste, ça. C'est très juste. À un moment donné, ça, c'est le regard de Dieu. C'est le regard de la sagesse de Dieu. Sarah, à un moment donné, elle a eu un acte héroïque. Alors, parce qu'à un moment donné, elle a eu un acte héroïque, oui, elle n'arrive pas à pousser son héroïcité jusqu'au bout. Ça arrive. Ça arrive, ça. Quand vous voyez dans des couvents où il y a des vieux pères, des vieilles sœurs. Alors quand tout est jeune, on ne le voit pas, parce qu'ils sont encore dans l'euphorie de l'acte héroïque. Alors ça va, mais les retombées de larmes, n'est-ce pas, 50 ans après, que vous. Alors là, on comprend très bien ça. Et le regard de Dieu, hein, il a fait un acte héroïque. Je crois que c'est très très fort, ça, parce que c'est vrai, c'est brutal, hein, quand on lit ça, on dit quand même, Dieu a fait pour Sarah, c'est invraisemblable, ça. Oui, Sarah a fait un acte héroïque. Toujours respecter l'héroïcité de quelqu'un. Vous voyez, on voit ça dans les temps de guerre. On a tous connu des je ne sais pas si vous avez connu, mais certaines générations, des gens qui ont fait des actes héroïques pendant la guerre, c'est ça. Extraordinaire, merveilleux. C'est des actes héroïques. Et puis après, on les revoit quand la guerre est finie. Ça ne va plus du tout. Ils ont fait des actes héroïques. Et ça, c'est grand. Il y a quelque chose qui demeure. Je crois ça que ça doit nous apprendre. Vous voyez, ce regard de Dieu qui regarde chaque être dans son sommet. Nous suivons, hein, historiquement et bêtement. C'est ça, nous suivons historiquement. Et il a eu son sommet, bêtement, il est retombé dans un gagatisme. Alors on le voit comme ça. Tandis que Dieu regarde le sommet de chaque être, la crête, l'acmé. Dieu regarde le sommet de Sarah. Le sommet de Sarah, c'est quand elle s'est effacée devant sa servante. Ça, c'est héroïque. Quand on a le tempérament de Sarah, c'est héroïque. De s'effacer devant sa servante par amour pour Abraham. par amour pour ce qui doit sortir d'Abraham. Et c'est à cause de ça, sans doute, que Dieu lui a donné la fécondité. Et c'est à cause de ça que Dieu respecte cette fécondité d'Abraham jusqu'au bout, cette fécondité de Sarah jusqu'au bout. Il y a là, vous voyez, au point de vue de comprendre un peu la manière dont Dieu conduit les événements, puisque c'est ça qu'on doit saisir. C'est l'histoire du peuple d'Israël, c'est fait pour ça. Parce que Dieu n'a pas donné un prophète qui nous donne l'histoire des papes. Il laisse des professeurs. C'est un peu ennuyeux. Non. Mais l'histoire des papes, c'est, non, il n'enlève pas un prophète qui fait qu'à chaque pape, il y a un prophète qui raconte l'histoire des papes dans la lumière de Dieu, pour nous faire comprendre l'acmé, le sommet. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce que les hommes regardent, comme nous dirons à propos de Samuel. Abraham, donc, quant au fils de la servante, de lui aussi je ferai une grande nation, car il est ta descendance. Comme c'est beau de voir la bénédiction de Dieu sur les deux, et c'est parce qu'il y a la bénédiction. Comme c'est beau de voir la bénédiction de Dieu sur les deux. Et c'est parce qu'il y a la bénédiction de Dieu sur Ismaël et sur Agar que Dieu peut accepter cette jalousie de Sarah. S'il n'y avait pas cette bénédiction, il ne pourrait pas, ce serait la justice. Mais Dieu permet et rattrape. Il se sert de la jalousie de Sarah pour faire que la descendance d'Abraham soit double. Il est deux. Là aussi, c'est un grand mystère. Hein. Cette double descendance d'Abraham. Vous savez bien, c'est quand on va à Hébron, c'est une des choses les plus émouvantes. Hein. C'est de voir tous ceux qui sont réunis auprès du tombeau d'Abraham. Abraham se leva de grand matin, prit du pain et une outre d'eau et les donna à Agar. Donc il se leva de grand matin avant que Sarah se lève. C'est très significatif aussi. Il faut que les adieux se fassent en dehors de Sarah. Abraham se leva de grand matin, prit du pain et une outre d'eau et les donna à Agar. Puis il mit l'enfant sur son épaule et la renvoya. Elle s'enfuit errer dans le désert de Bersabé. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un des buissons et elle alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle disait: que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis, mais se face à face, de la mère et de l'enfant. Et il se mit à élever la voix et à pleurer. Dieu entendit la voix du petit, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar et lui dit. Alors ça, il faut le saisir. Hein. C'est la grandeur d'Ismaël. Hein. Dieu entendit la voix du garçon, du petit. Dieu qui entend la voix. La mère fait tout ce qu'elle peut pour ne pas entendre. Ce n'est pas la compassion. C'est humain. Parallélisme, évidemment, antithétique avec la compassion de Marie, puisque le cri de l'enfant, le j'ai soif du Christ, c'est le cri du Fils de Dieu. et le cri ici du petit Ismaël, qu'il va la voir, qu'il commence à pleurer. Dieu entendit la voix du fils, de l'enfant, du garçon. Dieu entend la voix. Je crois que c'est le mystère même de Dieu comme paraclet. Parce que c'est intraduisible. Alors c'est Dieu qui écoute la voix de l'enfant. C'est Dieu qui écoute le cri de l'enfant quand l'enfant est au désert. Je crois que c'est ça qui fait le mieux comprendre ce que c'est que le paraclet. C'est-à-dire cette attitude fondamentale de l'amour qui fait qu'on est capable de recevoir le cri de celui qui est dans la misère. Qu'on est capable d'entendre ce qu'il y a d'ultime dans la misère, le cri de celui qui n'en peut plus. La miséricorde d'Agar est limitée. Elle met une limite à sa miséricorde. Alors, elle ne peut pas entendre le cri de l'enfant jusqu'au bout. Et quand la miséricorde de l'homme est limitée, le paraclet est là. Dieu entend le cri de l'enfant. Et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar et lui dit : qu'as-tu, Agar ? Ne crains pas. Il y a quelqu'un qui a compté le nombre de fois où dans l'écriture il y a ne crains pas. Hein. 170 fois, je crois, quelque chose comme ça. C'est extraordinaire. Combien ? 365. 365. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est comme ça que vous retenez avant. Une fois par jour. C'est merveilleux. C'est le mot qui est sans doute le plus dit. Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix du petit, là où il est. Mais c'est cette espèce de dialogue entre le petit et Dieu, entre l'enfant et Dieu, Dieu qui entend. Car Dieu a entendu la voix du garçon, là où il est. Debout, relève le garçon. Et tiens-le ferme dans ta main, car de lui je ferai une grande nation. Mais Dieu se sert, hein? il se sert de la mère, il veut lui redonner courage. Il faut qu'elle soit là, auprès de lui. Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau, et fit boire le garçon. Vous voyez, le chagrin, la douleur avait aveuglé son regard. Comme Marie de Magdala. Vous ne pouvez plus voir ce qu'était le salut pour l'enfant. La souffrance avait l'aveugle. Une souffrance vécue d'une manière trop humaine nous aveugle. Nous empêche de voir. Nous empêche de voir le puits qui est là. Et c'est Dieu qui enlève justement ces écailles qui sont provoquées par la souffrance. Dieu fut avec le garçon et il grandit. Donc, alliance avec Agar, c'est pas avec Agar, hein. Alliance avec le garçon par Abraham. Il n'y a pas d'alliance avec Agar. Dieu fut avec le garçon. Vous voyez, il se sert de la mère, il se sert de Agar. On ne peut pas dire qu'il y a une alliance. Dieu fut avec le garçon et il grandit. Il habita dans le désert et fut tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran. Et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Alors l'alliance avec Égypte. Or, en ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, le chef de son armée, dit à Abraham, « Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Maintenant donc, jure-moi ici par Dieu que tu ne me tromperas, ni moi, ni ma lignée, ni ma postérité, et qu'envers moi et envers le pays où tu résides, tu témoigneras la même fidélité que j'ai témoignée envers toi. » Alors ça, c'est le grand pacte avec les hommes. Après l'alliance avec Dieu, l'alliance avec les hommes. C'est le mystère de la fidélité. La foi d'Abraham à l'égard de Dieu, la fidélité avec Dieu, elle était jusqu'au bout. On verra de reste l'épreuve de la fidélité. Mais avant, c'est très important de voir déjà cette espèce de fidélité à l'égard des hommes. Et cette volonté que Dieu veut, cette fidélité. Abraham dit, je le jure. Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau qu'avaient pris de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech dit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Toi-même, tu ne m'en as pas informé. Et moi-même, je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. Vous voyez, les petites histoires domestiques, hein, c'est toujours les mêmes. Et là, on les voit ici, c'est la question des puits. Les puits d'eau, c'est quand même très important, puisque c'est toute la fécondité qui dépend du puits d'eau. Abraham prit du petit et du gros bétail, le donna à Abimelech, et tous deux conclurent une alliance. Comme Abraham mettait à part sept agnels du troupeau, Abimelech dit à Abraham, « Que font là ces sept agnels que tu as mis à part ?» Il dit, « Ces sept agnels, tu les prendras de ma main, afin que ce soit pour moi un témoignage que j'ai creusé ce puits. » Voilà pourquoi on a appelé ce puits Bertsabé, car là, tous deux avaient prêté serment. Quand ils eurent conclu alliance à Bertsabé, Abimelech partit avec Picol, le chef de son armée. Ils retournèrent au pays des Philistins. C'est très important de voir ça, vous voyez, cette espèce d'alliance et ce contrat, ce geste, le sacrement qui vient conclure cette espèce d'alliance, ces agnels, ces petits agneaux donnés. Abraham planta un tamaris à Bertsabé et il y invoqua le nom d'Yahvé, Dieu d'éternité. Abraham résida de longs jours au pays des Philistins. Je crois que ce petit événement, vous voyez, parce que chacun a sa signification, hein, on va essayer au terme de bien résumer ce mystère de la foi qui s'empare de plus en plus du cœur d'Abraham. C'est le mystère de la fidélité de Dieu avec le cœur d'Abraham. Et cette fidélité s'empare de plus en plus. Ici, elle s'empare de tout le point de vue d'une justice qui devient plus qu'une justice, qui devient une fidélité, une amitié. C'est le premier moment, si vous voulez, de la charité fraternelle. Elle a existé, cette charité fraternelle, avec Lot. Mais avec Lot, c'est très différent, parce que c'est c'est selon la chair et le sang. Tandis qu'ici, c'est un étranger. C'est un étranger même avec qui on avait des reproches, avec qui on en voulait. Et alors on voit que la fidélité et la charité fraternelle va dépasser ce reproche. Et donc fait qu'un ennemi devienne un ami. C'est donc vraiment le point de vue. Alors ça, c'est le mystère de la foi. C'est le mystère de la foi qui conquiert et qui est victorieuse de ce que peut représenter une espèce d'antinomie, d'opposition qu'il peut y avoir. Bon, au sujet d'une petite querelle, c'est souvent comme ça. Les ennemis, c'est parce qu'il y a une petite querelle de puits.